On va laisser tout de suite la parole à Marie-Lou.
Bonjour tout le monde, vous m'entendez?
Oui, très bien.
Super, je vais partager mon écran alors. Et voilà. Donc déjà, merci de m'avoir proposé de faire cette présentation aujourd'hui. Et merci aussi à Emma pour sa présentation, que j'ai trouvée très intéressante et j'ai appris beaucoup de choses. pour ma part, je m'appelle Marie-Lou Dufournet, je travaille au CEREMA dans la direction territoriale Est à Nancy, dans une équipe consacrée à la nature en ville et à l'adaptation au changement climatique. Et je viens donc vous parler aujourd'hui d'un projet, enfin d'une partie d'un projet qui s'appelle JMU, Gestion intégrée de l'eau en milieu urbain, auquel peut-être plusieurs d'entre vous ont contribué de près ou de loin. Et donc plus particulièrement sur un volet d'évaluation de la multifonctionnalité des ouvrages de gestion des eaux pluviales via l'expertise d'un panel d'experts. Donc le contexte de l'étude, c'est celui qu'Emma a rappelé en grande partie, c'est-à-dire une gestion héritée qui s'appuie principalement sur le tout tuyau et une urbanisation constante menant à une forte artificialisation et à une augmentation des volumes ruisselés. Problématique donc à bien des égards. Et dans ce cadre, donc, a été montée une opération de recherche et d'innovation qui s'appelle JMU. Parmi les nombreux, alors il y a eu beaucoup de partenaires impliqués dans ce projet. Et parmi les axes, un donc est consacré aux usages, aux services et aux coûts. Et le CEREMA, notamment, réalisé l'étude des services rendus par ces ouvrages de gestion des eaux pluviales. Donc, à travers l'identification des services rendus et une évaluation et la fourniture de recommandations. Donc, l'objet de l'étude, ce sont ces aménagements végétalisés. Le premier temps a été de définir une typologie sur laquelle, enfin, de reprendre et définir une typologie sur laquelle s'appuyer pour l'évaluation. Donc, pour ça, on s'est intéressé à un ensemble d'ouvrages qui, pour certains, sont déclinés un peu plus finement, par exemple les toitures végétalisées en reprenant la typologie, les types assez communément admis d'extensif, semi-intensif, intensif. Pour les aménagements linéaires, la déclinaison non faussée tranchée. Pour certains, des distinctions entre les ouvrages selon qu'ils sont de rétention ou d'infiltration, etc. Et la façon justement d'approcher cette multifonctionnalité pardon, pour chacun de ces ouvrages, on s'est appuyé en fait sur la notion de service écosystémique, qui je pense est connue de pas mal d'entre vous, mais en quelques mots qui désigne les bénéfices matériels et immatériels que les êtres humains retirent des écosystèmes et qui vont contribuer à son bien-être. Donc c'est une définition, enfin une notion qui a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et quand on a fait démarrer le projet JMU, donc on n'a pas mobilisé la notion de solution fondée sur la nature, qui est l'objet du séminaire aujourd'hui. A priori, il n'y a pas forcément une équivalence très stricte entre un ouvrage de gestion des eaux pluviales végétalisées qui rend des services écosystémiques et une solution fondée sur la nature. Par exemple, on peut prendre le critère de bénéfice net pour la biodiversité qui pourrait ne pas être observé. On pourrait imaginer par exemple, partir d'un écosystème très fonctionnel et particulièrement riche et le transformer en ouvrage de gestion des eaux pluviales avec une dégradation de cet écosystème, mais ça, ce ne serait pas une solution fondée sur la nature. Bon, dans les faits, ce n'est pas forcément quelque chose qui arrive très souvent, mais voilà. On pourrait aussi imaginer partir d'un espace fortement anthropisé et y intégrer une solution d'aménagement végétalisé. Mais par de mauvaises règles de gestion, par exemple introduire des espèces fortement envahissantes et qui auraient pour conséquence une dégradation de la biodiversité alentour. Donc là, par exemple, on serait aussi, ça illustre voilà, cette absence d'équivalence entre les deux notions, équivalence totale. Voilà, donc c'est un petit mot pour faire le lien avec la séance d'aujourd'hui. Donc nous, dans le projet JMU, notre objectif, c'était d'évaluer cette multifonctionnalité à travers la notion de service écosystémique. Et pour ça, on a choisi de procéder par une évaluation à dire d'experts. Donc dans ce type d'évaluation, on cherche donc à réunir des personnes spécialistes qui sont reconnues dans un domaine précis et pertinent pour l'étude, avec des profils un petit peu variés, donc à la fois universitaires, bureaux d'études, collectivités, établissements publics, services de l'État et associations. et qui représente un petit peu le panel des services que l'on va vouloir, enfin des bienfaits que l'on va vouloir approcher. Donc par exemple, des personnes ayant plutôt une spécialité en matière d'évaluation de la biodiversité, en matière de gestion des eaux pluviales, en matière de rafraîchissement, enfin de microclimat en milieu urbain, etc. Donc dans le cadre du projet JMU, c'est au total 38 experts et expertes qui ont été interrogés. Alors tous n'ont pas pu être interrogés sur l'ensemble des services écosystémiques, parce que comme on verra, c'est une typologie assez variée qui peut demander un large spectre de connaissances, ni sur l'ensemble des ouvrages. Et la méthode plus précisément d'évaluation à dire d'experts, on l'a reprise d'un chercheur qui s'appelle Burkhard, et qui est la matrice des capacités. Donc en fait, c'est un petit peu le principe de la méthode de Delphes, où on va sonder un maximum des experts pertinents et tenter de mettre en avant des consensus, ou au contraire des points de désaccord sur les performances des aménagements. Donc concrètement, ça se traduit par une liste qui est notre typologie d'aménagement, et un ensemble de services écosystémiques qui vont être caractérisés déclinés plutôt en différents indicateurs, et chaque expert ou experte va être amené à noter, dans notre cas de 0 à 4, chacun des ouvrages pour chacun des services. Par exemple, je vais vous montrer l'exemple juste après, en fait, pour la régulation du microclimat, c'est-à-dire le rafraîchissement en milieu urbain. On a décliné ça entre un effet d'ombrage et l'évapotranspiration, par exemple, et chaque expert ou expert va être invité à noter si une ou d'infiltration rend plus ou moins ce service, cette fonction, par rapport à une ou drainante ou telle fonction par rapport à une autre, à travers un système de notation. Ce que l'on a rajouté également, c'était la possibilité, c'était la notion d'indice de confiance qui permet justement aux experts de nous préciser s'ils ou elles sont confiants à la fois de leur connaissance du service ou de la fonction, et également de l'ouvrage. Tout ça nous permet en fait de déterminer un petit peu des types d'ouvrages qui sont relativement bien connus de notre panel d'experts. Alors, si on a été relativement exhaustif dans notre recherche d'experts, ça peut même nous permettre d'identifier à la limite des points qui scientifiquement sont peu matures. Donc, soit des ouvrages méconnus, soit des services qui seraient méconnus. Ou l'inverse, d'ailleurs, des points très connus et des ouvrages très connus et des services très connus. Et donc ça fait des gros tableaux avec beaucoup d'experts et beaucoup d'ouvrages et beaucoup de services. Et on en tire ensuite des analyses soit par ouvrage. Donc par exemple ici c'est l'exemple des toitures végétalisées. Donc l'ensemble des notations des experts ont été pondérées et moyennées, médianées. Et nous permettent d'avoir une idée un petit peu des performances potentielles des toitures végétalisées selon leur type et pour différents services. Alors dans le cas des services de régulation, donc par exemple régulation de la qualité ou de la quantité de l'eau ou du microclimat et de la qualité de l'air aussi, il apparaissait pertinent de distinguer les différents types de toitures végétalisées. C'est un choix qui n'avait pas été fait pour les services culturels, donc c'est-à-dire les aménités paysagères, le support d'activités récréatives, la sensibilisation à la gestion des eaux pluviales, etc. Mais qui pourrait être discuté, parce qu'on aurait pu aussi considérer que les toitures extensives, semi-intensives, intensives avaient un potentiel bien différent pour rendre ces services-là. Mais dans le cas de JMU, on est resté sur l'ensemble des types de toitures végétalisées indifférenciées pour ces services culturels. Donc, on peut faire ce type d'analyse pour chacun des ouvrages de la typologie étudiée. On peut aussi s'intéresser à un type de service ou à une dimension et comparer l'ensemble des ouvrages de la typologie. Alors là, je vous ai illustré cela avec le niveau moyen de support de la biodiversité. J'avais choisi celui-ci parce que comme un des critères de définition des solutions fondées sur la nature, c'était le bénéfice net pour la biodiversité. Ça me semblait intéressant de vous présenter ce diagramme-là. Donc voilà, des ouvrages qui rendent à des niveaux assez variés ce bienfait. Une dimension qui vous a sans doute venu à l'esprit en m'écoutant, c'est que ces ouvrages, même si on les a regroupés dans des types, à l'intérieur même d'un type, on peut avoir des ouvrages très différents, par exemple entre une noue en herbée simple et une noue qui comporterait des arbustes, voire même des arbres. On n'est quand même pas du tout sur le même objet. Et donc pour cela, en accompagnement de la grille de notation, nous avions proposé une grille qui fonctionne un peu de la même manière, hein, notée par les experts, sur ces éléments de contexte, donc par exemple des précisions sur le type de végétation, sur le mode de gestion, le contexte urbain dans lequel s'inscrit l'ouvrage, etc., et qui vont pouvoir moduler la note, moduler la fourniture de tel ou tel service ou bienfait. Donc par exemple, est-ce que la présence d'une strate arborée va être bénéfique à la régulation de la qualité de l'air, va-t-elle être bénéfique pour la biodiversité? Donc voilà, en parallèle, chaque expert était incité à répondre, à qualifier également ces éléments de contexte. Là encore un exemple avec le potentiel d'accueil de la biodiversité pour ces éléments de contexte. Donc on visualise la façon dont les experts ont bonifié ou pas chacun des paramètres de conception ou de contexte qui étaient proposés dans l'exercice. J'ai oublié de préciser que c'était sur une base bibliographique, mais que ça n'a pas la prétention d'être exhaustif. Que je veux dire que la sélection des éléments de conception et de contexte était faite sur une base bibliographique. Voilà. Enfin, ce vers quoi on aimerait aller avec cette grille d'évaluation, c'était de la proposer, de la tester sur des ouvrages réels. Alors, on a fait un petit peu cet exercice parce qu'il se trouve que dans sur le laboratoire du CEREMA à Nancy, on a une toiture végétalisée que l'on suit d'assez près depuis plusieurs années, depuis 2011. Elle est l'objet donc de plusieurs thèses et travaux de recherche. Donc on a quand même quelques idées de ces performances réelles. Et par ailleurs, quatre des experts interrogés dans JMU. Ah oui, j'ai oublié de préciser une chose importante, c'est que lorsqu'on faisait l'entretien dans lequel les experts devaient remplir cette matrice des capacités, un premier exercice pour eux, et pour mieux comprendre le fonctionnement, c'était de noter un ouvrage qu'ils ou elles connaissaient. Et donc, dans les 38 experts interrogés, il se trouve que, comme on a cherché des personnes qui nous connaissent bien, ils connaissent aussi notre toiture végétalisée, donc ils ont 4 ont choisi l'exemple de notre toiture végétalisée. Et donc, ici, on compare un petit peu c'est une toiture végétalisée extensive. Donc, on compare la notation que les experts ont faite de cette toiture végétalisée, celle de Nancy, à la toiture végétalisée extensive dans le cas général, c'est-à-dire l'ensemble des experts qui ont évalué des toitures végétalisées extensives. Et enfin, ça c'est un exercice auquel on s'est prêté, nous, en connaissant un petit peu ses performances via les mesures qu'on y réalise, et notre connaissance aussi de sa conception. Par exemple, on sait que toute l'eau qui arrive sur notre toiture, in fine, retourne dans le réseau, ce que ne savent pas forcément les experts qui l'ont noté. Donc voilà. Et nous, notre idée, ce serait de multiplier un petit peu ce genre de travaux. Alors, avec la métropole du Grand Nancy, avec laquelle on travaille, on aimerait bien, on souhaiterait mettre en œuvre justement ce type d'évaluation sur des ouvrages réels. Alors, dans l'idéal, en rassemblant plusieurs services de la métropole qui auraient un petit peu un aperçu, pour offrir un aperçu un peu large des performances que pour avoir un même ouvrage. Parce qu'on suppose que la connaissance est partagée entre plusieurs personnes et services. Pour, pour voir justement si cette grille elle a un intérêt pour la collectivité, pour faire un bilan sur un ouvrage qu'elle aurait conçu par exemple, pour servir un petit peu de grille de lecture et de discussion entre services ou entre personnes au moins, et quand même refléter un petit peu les performances des ouvrages du gestionnaire. Voilà, donc ça c'est plutôt pour les perspectives. On a été un peu contraints par la pandémie pour mettre en œuvre notre exercice sur le terrain. Donc en conclusion, finalement notre méthode elle a pour l'instant pas trop permis de formuler des liens entre les différents services écosystémiques, c'est-à-dire une analyse plutôt par bouquet, faire le lien entre la fourniture le support de la biodiversité et le service de régulation du microclimat par exemple. Comme pour l'instant on a eu une approche vraiment d'évaluation service par service. Alors c'était assez prévisible vu le choix du sujet, mais heureusement les services de régulation des inondations et de régulation de la qualité de l'eau sont relativement bien rendus par toute la typologie. On a noté donc un apport des milieux humides significatifs pour les services culturels. Alors une parenthèse que j'ai pas faite sur les services culturels, c'est qu'on n'avait pas, ce qu'on aurait pu faire l'exercice avec des personnes. Enfin, on aurait pu largement élargir notre liste d'experts pour évaluer ce point précis, parce qu'on a constaté quelques biais, par exemple, qui venaient certainement de notre échantillon, par exemple une préférence nette pour des ouvrages peu gérés, alors peut-être avec un échantillon plus représentatif de la population susceptible de bénéficier de ces services culturels, on n'aurait pas eu autant cet attrait pour l'absence de gestion ou la gestion différenciée. Voilà, ça c'était une parenthèse. On a bien noté donc une influence de la végétation à travers les éléments de contexte sur les niveaux de services rendus, et une influence de la fonction d'infiltration par rapport à l'absence d'infiltration. Donc les premières recommandations à l'issue de ce travail, c'était quand même de favoriser une diversité des strates végétales quand c'est possible. Quand c'est possible également de travailler les liens avec les espaces à caractère naturel alentour, et notamment les continuités entre ceci et l'ouvrage. En matière de gestion, de favoriser une gestion semi-intensive ou différenciée et de poursuivre les efforts de communication autour de la gestion des eaux pluviales. Voilà, je m'arrête ici. Je vous remercie pour votre attention et je vais lire les questions.
Merci beaucoup pour cette présentation toujours très intéressante. Alors, on a une question de Corinne qui demande si l'outil peut également servir à faire des choix d'aménagement sur un territoire et proposer des scénarios pour une collectivité.
À terme, on aimerait bien. C'est-à-dire qu'on va pas trop être dans. Enfin, si je me mets à la place d'une collectivité, j'imagine qu'on est rarement dans la possibilité d'être complètement ouvert sur les possibles et d'hésiter entre une toiture végétalisée et un fil planté de roseaux, par exemple. Donc, je pense que l'apport du projet JMU, ce serait plutôt de permettre de travailler sur les détails, entre guillemets, à travers justement les éléments, quelques apports sur les éléments de conception. Donc, dans un second temps pour le projet, on aimerait bien justement travailler sur un outil qui nous permette qui facilite justement la mobilisation des résultats de GMU dans une optique de décision liée aux aménagements, mais pour le moment ce n'est pas le cas.
Merci. Moi j'aurais une petite question. C'est Frédy a évoqué tout à l'heure l'importance d'avoir des démarches participatives, ou en tout cas qui impliquent le citoyen, le riverain. Ici, là, c'est plutôt une évaluation experte. Comment tu vois justement cette diffusion aux citoyens? Comment les faire participer? Est-ce qu'il faut qu'ils participent à l'évaluation ou non? Et sinon, comment leur transmettre à ce moment-là?
Je pense qu'une partie de... que l'évaluation, elle pourrait être... Alors, je donnais l'exemple pour les services les services écosystémiques culturels, donc le caractère récréatif, le support à la sensibilisation quant à la gestion des eaux pluviales, etc. Ça, il est certain que c'est des points qui pourraient être évalués avec un panel d'experts bien plus large qui y aille, et les citoyens rentrent tout à fait dans les riverains, les habitants du quartier rentrent tout à fait dans les personnes qui pourraient apporter leur expertise. Je pense qu'on pourrait aussi aller un peu plus loin, et que, par exemple, même les services de régulation pourraient être intégrés aussi à un exercice d'évaluation plus inclusif.
Merci. Une dernière question, celle de Philippe, et c'est une question que je me posais aussi, parce que tu ne l'as pas forcément détaillé dans la présentation, c'est sur les méthodes que vous avez utilisées pour faire les agrégations d'avis d'experts. Quelle méthode vous avez utilisée?
Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, on a mobilisé des indices de confiance pour chacune des notes des experts, à la fois par type de service, par type d'ouvrage, dans l'idée initialement de pondérer la notation de chaque expert à la fois par son indice de confiance lié à l'ouvrage et au service, et après d'en faire une moyenne pondérée pour tous les experts. Finalement, on a gardé les indices de confiance pour les analyser à part. Mais en faisant ces moyennes pondérées et des moyennes simples, on n'avait pas des différences très significatives, et donc très peu de différences. Donc les résultats qui sont présentés là sont à partir des ne prennent pas en compte ces indices de confiance.
Juste pour, c'est parce que les experts avaient tous la même confiance finalement dans les évaluations, ou comment ça se fait qu'il n'y ait pas de différence entre les deux?
Ben, ça peut vouloir dire que finalement, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que des personnes ont dit qu'elles avaient très peu confiance et qu'en fait leur avis était à peu près le même qu'un expert, qu'un ou une experte qui avait exprimé être très en confiance sur le sujet. Ça peut vouloir dire, ça dépend si vous êtes optimiste ou pessimiste.
Alors, c'était juste pour savoir si vous avez eu le temps, enfin, si vous avez regardé ça un peu, ces éléments-là, pour voir un peu justement les éléments de confiance des gens. Est-ce que...
Eh ben, par exemple, si c'est la question, on a pu regarder quels étaient les ouvrages les plus ou les moins connus, quels étaient les services les plus. Enfin, les plus. Quand je dis plus ou moins connus, c'est purement sur la base des indices de confiance exprimés, ce qui est déjà un biais important parce que vous pouvez. Ça dépend beaucoup de la personnalité de l'expert. Enfin, si vous pouvez vous exprimer, deux personnes ne noteront pas leur. Disons qu'en fonction de votre caractère, vous n'exprimerez pas votre confiance de la même façon. Mais donc, si on part du principe que l'indice de confiance il reflète bien la connaissance d'un ouvrage ou d'un service, par exemple, on avait vu que. Dans notre panel d'experts, les indices de confiance les plus faibles, c'était lié à la régulation de la qualité de l'air, ce qui paraît à peu près cohérent parce qu'on n'avait pas identifié d'experts vraiment sur ce volet. En tout cas, ceux qui ont répondu n'étaient pas directement sur ce volet. A contrario, les indices de confiance les plus élevés, c'était sur la régulation quantitative ou qualitative de l'eau, les deux à des niveaux à peu près comparables. Voilà. Et du point de vue des ouvrages, de mémoire, les moins connus, enfin, ceux avec les indices de confiance les plus faibles, c'était les îles végétalisées. Et pour les plus élevés, je ne l'ai plus en tête.
Merci beaucoup. En tout cas, bon, de toute façon, on rediscute.